Vous écoutez La Voix du Collectif. Bienvenue. La Voix du Collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Parole de Paysans. Nous sommes Julia et Judith, deux étudiantes en agronomie, et pendant 4 mois, on est en immersion au sein de collectifs agricoles. On vous invite à suivre notre expérience à travers une série de podcasts, dont voici le 7e épisode, partie 2.
Après vous avoir dressé un portrait de l'histoire du lieu et de son fonctionnement actuel, on revient ensemble sur la façon dont a été pensé ce projet. On se penche sur 3 questions qu'il faut bien analyser avant de se lancer. Le choix des modèles économiques et juridiques d'abord, puis le design du lieu et l'agencement paysager, et enfin la question de l'habitat. Premier pilier et nerf de la guerre, le montage économique. Dès le départ, le projet était ambitieux, et l'association a vite pris de l'ampleur avec la construction du bâtiment central, qui impose beaucoup de contraintes financières en gestion et en entretien. David présente depuis le début, il nous raconte l'engrenage économique dans lequel ils se sont vite trouvés.
David, j'habite là depuis pas mal d'années. Je suis né en Corrèze. Et puis je suis membre de l'association depuis 2006, un truc comme ça. Et relié à l'aventure ici du Bas de Mandel et de ce coin depuis l'origine, puisque je suis le frère de Pascal, qui est à l'origine de. Qui a eu l'idée de créer cet endroit. Donc d'abord via des discussions familiales et puis après par l'investissement perso, je me suis retrouvé relié à cette histoire. Alors au début c'était beaucoup plus léger parce que on faisait des clôtures, on s'appropriait le lieu, on a construit le sanitaire en paille là-bas. Et donc ça c'est des petits chantiers, mais on avait déjà dès le départ en tête qu'il fallait quelque chose. Enfin, le centre agroécologique avec un espace d'accueil, un gîte, un restaurant, une activité resto, des toilettes sèches, de la formation. Enfin, toutes les activités, c'était déjà décliné. Qu'il y aurait une boutique, c'était déjà décliné, etc., etc. Donc après, ça a mis du temps pour que chaque activité se déploie et que les personnes trouvent leur place. Voilà, donc avant, au début, c'était que des bénévoles. Et puis après, au vu de l'ampleur et de développement de l'association, et notamment des contraintes économiques liées à une fois qu'on a eu construit ce bâtiment, les tableaux financiers n'étaient plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que, en 2008 ou 2009, on parlait du chiffre d'affaires de l'association sur 2009, c'était peut-être de 40 ou 50 000 euros. Et en même temps, on bossait sur des chiffres pour les années à venir de 400 000 ou 450 000 euros. Donc en fait, il y avait vraiment c'était 10 fois ce qu'on faisait et il fallait le faire presque 2 ou 3 ans après, il fallait faire ça, quoi. Donc il y a eu à un moment donné un basculement, parce que dès que tu as les outils pour, logiquement elle doit suivre le rythme de la construction des installations, quoi. Et aussi des coûts que ça engendre et de l'économie que ça génère, puisqu'il faut salarier des personnes, il faut rembourser des emprunts, il faut et puis quand tu fais plus d'activités, tu achètes plus de, pour la restauration, il faut acheter plus d'aliments pour faire plus de repas, etc. C'est l'engrenage, quoi.
Aurélie nous explique l'idée initiale derrière le modèle économique de l'association. Compenser les activités non rémunératrices par celles rémunératrices. Ceci est permis par le statut associatif du Bas de Mandel.
L'association, ça permet de tout faire, en fait, sauf de se partager des bénéfices. Mais en gros, c'est un véhicule juridique qui est très, très libre. Nous, on est une association, qui est fiscalisée en partie, ce qui est assez particulier, puisque la plupart des associations sont non fiscalisées. Aujourd'hui, on a une partie de nos activités. Donc, l'association fait qu'on est une organisation à but non lucratif, mais ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir des activités dites lucratives, donc sur lesquelles on fait du bénéfice et qui permettent d'avoir un résultat positif. Et on a des activités sur lesquelles, pour le coup, on n'est pas du tout sur une forme de lucrativité. Et donc, qui sont non fiscalisés. Et l'idée, à la base du Bas de Mandel, quand ça s'est créé, c'est que, justement, ces activités qui peuvent générer du bénéfice puissent compenser, en grande partie, celles qui n'en génèrent pas. C'est, par exemple, le cas de, si je prends la restauration, l'hébergement, la location des espaces, L'idée, c'était effectivement d'arriver en positif sur ces activités-là pour compenser d'autres activités comme l'accueil immersion sur lesquelles on gagne pas d'argent, puisque l'idée, c'est de pouvoir accueillir des personnes, leur transmettre ce qu'on fait, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Et comme c'est des choses qu'on fait à prix libre, du coup, sur lesquelles on ne génère pas forcément l'argent que ça nous coûte, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée au démarrage.
On arrive à une association assez entrepreneuriale, puisque son activité principale, mais qui est accessoire économiquement, c'est-à-dire qu'elle est principale dans son objet, dans l'esprit, dans la couleur qu'elle donne à l'association, dans l'orientation politique qu'on veut donner à ce qu'elle fait. Par contre, elle est minime. Donc à l'époque, au tout début, c'était à peu près 20% du chiffre d'affaires, c'était cette activité. Donc, voilà. Et 80% de nos recettes, voilà. C'était les autres activités, donc hébergement, un bout de formation professionnelle, la restauration, aussi les toilettes sèches. Et donc, c'était ça le montage économique.
Dans les faits, les activités qui génèrent du revenu n'en créent pas suffisamment pour compenser celles qui n'en génèrent pas. Le statut associatif permet aussi d'aller chercher des subventions sur ces activités non rémunératrices.
Alors, on a réussi par moments à s'en écarter. Et là, actuellement, on colle beaucoup à la subvention publique. On ne peut pas dire que... voilà. Mais ce n'est pas juste pour faire ce qu'on veut, c'est eux, ils ont une attente et ils ont une politique là-dedans, et nous, on est un des prestataires pour faire ça. Alors ça nous arrange, parce que ça correspond à ce qu'on veut faire et on peut y fondre les contenus, on les choisit. Mais entre guillemets, demain, ils décident que les chantiers, c'est plus leur histoire et ils s'en vont. Et nous, c'est vrai qu'on se disait que c'était cool de ne pas être trop dépendant des subventions publiques. Clairement, je ne sais pas la fin de cette année, mais on va peut-être avoir 80% des fonds qui sont des fonds, c'est lié à des fonds publics quoi, ou parapublics. Quoi. Donc ça, c'est pas très très bon signe, même si ça a toujours été des tensions au sein de l'association, de se dire, l'argent, les subventions, c'est notre argent, et il n'y a pas de raison de ne pas aller les chercher. Pour ma part, de toute façon, c'est soit les subventions, soit le marché. Parce qu'après, tu fais de la prestation et tu es sur le marché capitaliste. Et c'est, selon ta position idéologique, moi, je ne suis pas un pro-État et je ne suis pas un pro-marché. Donc après, pour trouver des fonds qui ne sont ni liés au marché, ni liés à l'État ou aux institutions étatiques, régions, départements, etc. Il faut être dans une approche et un montage économique qui n'a rien à voir avec ce qu'on a fait.
Une autre façon de garder la tête hors de l'eau est de s'appuyer davantage sur le bénévolat. Pascal nous explique.
Le modèle économique, c'est un souci, depuis toujours. On n'a pas choisi de modèle économique. On a choisi de créer un lieu assez exigeant sur plein de niveaux. Son fonctionnement humain, accessible au public, quand même avec un coût un peu important à la base. Donc en fait, on a cumulé les impossibles, on va dire. Enfin, les impossibles. La quadrature est un peu compliquée à tenir. Donc en fait, on a choisi le modèle économique de la pauvreté, de la précarité. Donc en fait, on a toujours peiné à faire tourner, enfin en gros, tous les gens, les équipes de permanents qui ont été ici, il y avait beaucoup moins de salaires qu'il y avait de temps travaillé. Donc on est quand même basé beaucoup sur le bénévolat, l'engagement, on pourrait dire le militantisme. Et donc la précarisation des gens. Ouais. Ça fait partie des choses qui ont fait qu'il y a eu quand même des arrivées, des départs successives, parce que énergie sans retour économique, parfois, ça fait quand même un épuisement. Donc voilà, on est, y a pas de modèle économique, quoi. C'est le modèle de la cessation d'activité permanente, quoi. Là, actuellement, on se dit qu'on va tâcher de redresser la barre en partageant ce lieu avec d'autres qui pourront tous participer un petit peu en payant des participations à l'utilisation des locaux, des choses comme ça. Bon. Mais tant qu'on n'a pas remboursé notre prêt bancaire, on reste précaire, il n'y en a plus pour très longtemps. Et puis après, il y a la difficulté, mais ça vaut dans notre société tout entière, c'est le travail salarié. C'est le salariat qui est un problème. Enfin, qui est un problème quand tu dois payer 10 personnes de manière un peu décente. Donc disons qu'en Corrèze, en dessous de 1200 euros, c'est quand même un peu compliqué. À Paris, je pense que c'est très compliqué. Donc si tu dois payer 10 personnes 1200 euros net par mois, notre lieu ne peut pas vivre. Dans le modèle tel qu'il était pensé avant. Donc, on a bidouillé. Voilà, c'est le modèle de la bidouille.
Le problème aurait-il finalement une autre racine? Selon David, le projet ne s'est pas suffisamment ancré dans le territoire au démarrage. Il est entré dans la dépendance aux institutions.
En fait, cette solution, elle est induite par comment s'est fait le, comment s'est a émergé l'idée de cette histoire. T'as quelqu'un qui réfléchit à ça parce qu'il émerge dans une société où voilà, les problèmes climatiques, sociaux, voilà, ça lui pose question, qu'il est triste de voir cette situation. Et par contre, il en parle autour de lui, mais c'est pas du tout ancré dans la vie d'un lieu, dans un village, d'un voilà. Donc en fait. Nous, notre famille avait des terrains. On a pu convaincre des membres de notre famille que ces terrains puissent servir à ça. Et tu vas chercher des subventions, tu vas chercher un prêt bancaire, et bing, tu mets ça sur, t'installes ça sur un bout de terrain. Et puis les gens autour, ben voilà, ils n'ont pas leur mot à dire parce que la propriété privée, ben c'est sacré, et ce que fait le voisin sur sa propriété privée, t'as rien à dire. Et donc, du coup, tu passes par quand t'as pas de soutien. Un ancrage fort de population, d'habitants sur un espace, eh bien, tu es obligé de te raccrocher à l'institution. C'est ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Quand tu n'as pas un groupe de solidarité ou une organisation collective forte, ben, tu vas chercher le RSA, tu vas chercher, enfin, si tu n'as pas trop de revenus, tu vas chercher un boulot à telle entreprise, tu veux construire une maison ou acheter une bagnole, tu vas chercher un emprunt parce que ben, tu n'as pas d'assise collective en fait. Donc c'est une histoire collective, mais qui n'avait pas l'assise collective suffisante pour assumer la taille de ce qu'elle avait comme ambition. Et elle ne l'a toujours pas, voilà, ou peut-être un peu plus, mais toujours pas suffisamment. Et donc ben, on aurait pu penser qu'au lieu d'aller chercher 240 000 euros d'emprunt, eh ben, on aurait pu se dire, il y a plein de gens qui vont nous prêter des thunes parce qu'ils sont déjà partie prenante à l'histoire, mais là c'était juste des discussions, ça s'est fait hyper vite. Donc, bah non, c'est la meilleure solution pour avoir de l'argent, c'est tu vas demander à la banque, c'est de dire oui, c'est banco, sauf que t'en prends pour. Bon, là, on a essayé de limiter la casse, c'est 15 ans, donc il reste encore 5-6 ans, mais bon, on a repoussé avec le Covid les remboursements, donc ça prolonge un peu. Maintenant, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des choses déjà à une taille plus réduite et qui correspond à l'assise locale qu'on a. Voilà. Si on n'est pas capable de le financer par les économies des uns et des autres ou de proche en proche, moi, ça m'intéresse pas trop d'y aller. Parce que sinon, on va retomber dans du dossier de subvention, dans l'emprunt bancaire. Moi, je préfère devoir dessouder des gens que je connais, avec qui on peut. Ça nous fait travailler sur notre rapport à l'argent, ça nous fait travailler sur un truc de fond, même sur. Depuis le départ, cette histoire, elle est commune. Alors que là, finalement, elle est là maintenant, cette histoire commune, elle est commune à Pascal et moi presque.
Quoi qu'il en soit, la fin du tunnel approche. Dans 6 ans, le remboursement du grand bâtiment sera terminé et l'association sera enfin propriétaire. La pression économique redescendra, laissant place à davantage de liberté. Après le modèle économique et associatif, il s'agit dans un lieu agricole collectif de penser l'agencement paysager. Cette réflexion sur le paysage était nécessaire au battement d'ailes au vu des contraintes pédologiques et climatiques du lieu.
Comme je le disais, on est sur le haut d'un massif, massif central. Donc, sous-sol, c'est du schiste granitique ou du granit schisteux, bon, selon qui parle finalement. Un massif très ancien, hyper érodé. Donc, un sous-sol, enfin, un sol drainant, très gourmand, donc il boit et il mange énormément. Et puis, les nutriments s'en vont du fait qu'il soit très drainant. Quand il pleut, ça transperce, ça s'en va très vite et ensuite ça. Mais on arrive sur la roche-mer très vite et puis ça file dans les vallées. Donc notre contrainte, c'était qu'on était à un endroit qui s'assèche très vite, en plein soleil, et qui demande beaucoup à manger, et qui était pas du tout boisé. Donc il a fallu qu'on gère ça, et puis à l'époque, quand on commençait à concevoir le lieu, on n'avait pas les pics de chaleur actuels. On nous annonçait qu'ils allaient arriver, on y croyait plus ou moins, enfin nous on y croyait, mais les gens y croyaient plus ou moins, mais du coup il y a un gros effort d'aménagement. En fait il faut gérer les pentes, réussir à capter l'humidité, et puis à faire que ce lieu devienne un lieu de fertilité, ce qui n'était pas vraiment le cas. Donc notre stratégie, ça a été d'aménager les pentes en boisant énormément. Donc plus on va descendre vers le jardin, plus on va densifier la population, on va dire forestière. Donc on voit qu'on a planté, là c'est des arbres qui ont été plantés. En gros, il y a une dizaine d'années, il n'y avait rien. pas grand-chose. Et donc là, en 10 ans, on voit que déjà le lieu s'est beaucoup boisé. Et en fait, on ne fait que renforcer. Cette année, on a encore planté 50 arbres là, dans l'allée qui monte au bâtiment. Notre objectif, c'est retenir l'eau le plus possible, produire de la biomasse et que cette biomasse reste au sol. Et puis amener de la diversité végétale pour qu'on ait des oiseaux, des insectes, en fait que ce lieu devienne une espèce d'écrin de nature un petit peu, comment on pourrait dire, écologiquement cohérent. Et ça marche, puisque nos jardins au début, ils étaient très parasités, et aujourd'hui on n'a plus beaucoup de parasitisme du fait de la biodiversité, quoi.
De toute façon, chaque doré fort qu'on enlève, c'est hyper important, c'est toujours ça d'œuf qui prend en moins.
Ouais.
Et ça a pas de prédateurs spécialement, du coup,
les poules.
Si, les poules, ouais.
Ouais, les poules, ouais. Oui, c'est vrai.
Mais bon, du coup, ça pourrait dévaster.
Mais tu vas pas aller foutre les poules dans les patates, ouais, parce que sinon, t'auras plus de patates, alors tu choisis. Ouais, c'est pas facile, le jardin. Surtout quand tu veux vraiment, vraiment manger dessus, quand il n'y aura plus de magasins et qu'on pourra vraiment manger sur nos trucs.
Ouais, ben faut apprendre des plantes sauvages aussi.
Eh ben, parce dis que là, il y en a qui vont avoir du mal.
Une tonne de trucs qui se bouffent. Ouais, c'est clair. Une tonne.
Ah, mais ici, là, on est dans un trou.
C'est clair. Déjà,
Moi, j'ai trouvé trois bestioles, quoi. J'ai pas trouvé de larves ou de trucs, alors je sais pas si je regarde bien.
Oui, moi, j'ai rien trouvé du tout.
Oui, ils ont pas eu le temps.
Ouais, j'en ai trouvé deux là qui étaient en villégiature sur une feuille.
Tiens, regarde, une ponte. Tu veux prendre en photo? Je suis un peu loin.
Ouais, déjà, c'est plus maintenant, je vois. Non, j'ai pas vu de rouge comme ça.
Oh, bah là, si, regarde, devant toi là. Non, regarde.
Où ça?
Tu vois la feuille bouffée là?
Oh yes! Alors maintenant,
ouais,
ça, faut que je l'écrase.
Alors, ça écrabouillé.
Attention, parce qu'il faut taper le saut de temps en temps, sinon il se barre.
Mais c'est un petit côté jouissif, moi, je trouve, de péter les œufs. Une petite claque là, j'aime bien. Côté psychopathe, peut-être. Hein, mais... Voilà. Autant j'aime pas buter les adultes ou les larves, mais les œufs, une satisfaction. Je
c'est sensuel sous le pouce.
Oh, je dirais pas juste là, Michel, mais.
Vous pouvez penser à du caviar.
Et pourquoi on prend pas juste la feuille où il y a les œufs, clac. Et puis on prend.
Oh bon.
Si je suis un peu sensible de l'écrasement.
Parce que ça va plus vite.
Tu me laisses faire, tu me donnes ta part.
Si tu la poses au sol, ben les œufs, ils vont.
Si certains investissements sont lourds à porter sur la durée, d'autres ne demandent pas de remboursement, de retour sur investissement et peu d'entretien. C'est le cas de la biodiversité arborée et végétale introduite sur le lieu, qui a attiré une faune incroyable. On a demandé à Pascal comment ils ont pensé l'agencement paysager du lieu.
On est parti de différents paramètres, sol, climat. Donc dans climat, il y a température, pluviométrie, exposition au vent, saison, environnement proche, et ensuite, qu'est-ce qu'on voulait établir sur le lieu. C'est un peu ça les données de départ. Une autre donnée de départ, c'est lié au sol, c'est qu'on avait besoin d'énormément de biomasse. Donc il fallait produire de la biomasse pour nourrir notre lieu, qui est un lieu extrêmement... Enfin, nourrir en matière organique. Donc on est parti de ça. Et il y avait aussi l'aspect production alimentaire. Donc on ne pouvait pas faire que du paysagisme à vocation esthétique. Donc il fallait glisser à l'intérieur de nos réflexions et de nos prévisions d'aménagement, produire à manger pour les humains, pour les animaux, domestiqués ou non. Donc il fallait recréer, on va dire, un écrin de diversité. Il fallait que les oiseaux reviennent, les insectes, les lézards, les serpents, tout. Donc ça, c'est les paramètres. Si on doit parler que des paramètres, on va dire qu'en gros, c'est ça les paramètres. Et ensuite, en se donnant un peu de temps, puisqu'il fallait qu'on voit les circulations, un peu les points clés, où passent les machines, où passent les humains, où vont passer les flux d'eau qu'on récupère, enfin, que sais-je. Toutes ces circulations étaient importantes. Et puis, les centres, les pôles d'activité humaine. Donc ça, il a fallu observer un peu. Les circulations se sont dessinées plutôt d'elles-mêmes. On regardait les gens marcher, en fait.
Aujourd'hui, c'est près d'une centaine d'écosystèmes différents qui sont implantés sur le lieu, et divers microclimats qui permettent de mieux supporter les épisodes de sécheresse. En bref, un challenge relevé. Juno, la fille de Pascal, nous fait une petite visite du jardin.
Salut madame. Vous Salut. Vous appelez comment?
Je m'appelle Julia et toi tu t'appelles comment?
Juno.
Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Tu
joues? Je suis en train de mettre ma poupée dans son dodo. Et le papa, il est en train d'aller cueillir les poireaux. Et après, il a après qu'il ait cueilli les poireaux, il va aller cueillir les tomates. Mmh. Il pose les poireaux et il va cueillir les tomates.
Elles sont où les tomates?
Elles sont là.
Ah, mais oui. Je les reconnais.
Elles
sont pas très grosses hein, cette année. Hein.
Normal, c'est des tomates cerises.
Ah.
Il y a même un tracteur qui est en train d'arriver pour larguer les tomates géantes. Je vais essayer d'aller cueillir les tomates géantes. Ça se passe par là-bas. Go! On y va. Le chien va venir pour cueillir les tomates géantes.
Oh! Mais elles sont énormes ces tomates. T'en prends combien?
Plein.
Quelques kilos?
Plein, je vais en prendre 1000.
1000
1000 kilos.
Bon, pour de vrai, c'est quoi ça, cet arbre?
Tilleul.
Ouais, c'est bien.
Je le connais par cœur, celui-là.
Et ça, les fleurs jaunes comme ça, c'est quoi?
Les belles de nuit.
Tu connais toutes les plantes ici?
Pas toutes.
Moi, je me suis absenté pendant 3 ans. Quand je suis revenu, j'ai fait... Moi, quand même, j'ai pris une petite claque. Et ce n'est pas le bâtiment lui-même. C'est vraiment c'est cet équilibre qui commence à y avoir entre la partie architecturale bâtiment et la partie paysagère. Voilà, tout ça, c'est pensé, construit, élaboré. Il n'y a rien de vraiment naturel. Voilà. Mais au final, ça commence à créer... Il y a une cohérence sympa. Enfin, voilà. Même si c'est contre nature, vraiment. Voilà, il y a, à part la pelouse qui est là depuis des décennies, le reste, ça a été tout changé de A à Z, quoi. C'est un peu un faux-semblant. Mais ce qui est cool, c'est que des fois, ça sert de transition pour certaines personnes, parce que déjà, ça leur fait mettre le pied à quelque chose, elles perçoivent quelque chose. Enfin, moi, les fois où j'ai failli pleurer, je pourrais le faire encore maintenant, c'est quand tu vois des gens hyper émus pour planter un arbre, parce qu'ils n'ont jamais planté un arbre, et tu vois vraiment que là, il se passe un truc. Après, c'est presque une rencontre avec eux-mêmes, tu sais pas si c'est vraiment avec la nature, etc., mais il y a vraiment un truc, ça déploie quelque chose en eux, émotionnellement, et ça, c'est beau, parce que c'est rare, vraiment, où il y a peu d'occasion qui est donnée dans notre vie à ça, et donc dans ces moments-là, je suis vraiment heureux de ça, quoi.
La diversité paysagère, floristique et faunistique du battement d'ailes pousse à l'émerveillement. On se demande comment l'habitat, autre composante fondamentale d'un lieu collectif, a été intégré dans ce paysage.
Nous, on a créé ce lieu, c'était une structure où on travaille, dédiée au public. Mais on ne s'est pas du tout posé la question de l'habitat au début. Et puis assez vite sont arrivés des gens. En fait, tous les gens qui ont été permanents dans la structure à un moment donné sont pas des locaux. Au début, c'est des locaux qui ont monté ce lieu avec l'idée de travailler pour qu'il existe, mais la plupart étaient déjà établis et avaient leur propre projet. Donc il fallait que se constitue une équipe de permanents travailleurs. Et donc ça a été... chaque année, il y avait son lot de surprises, il y avait des bénévoles qui venaient, passaient 15 jours avec leurs valises, et puis finalement, ils s'installaient. Ça s'est beaucoup produit comme ça, ça s'est même massivement produit comme ça. Du coup, on avait un souci d'habitat. Ok, là, vous pouvez bosser, mais concrètement, où est-ce que vous allez habiter? Donc, on les logeait dans un bureau, dans des caravanes, bon, bref. Donc, assez vite, on s'est dit, il faut qu'on achète un bout de terrain pour pouvoir y installer des maisons. Et donc, il y a 8 ans en arrière, on s'est regroupé à plusieurs, à 6, pour acheter ici 1,5 hectare de terrain, dans l'objectif de pouvoir y faire un hameau. Sauf que, entre le moment où tu achètes le terrain et où le moment où ça devient possible de construire, en tout cas, pour nous, il s'est passé 8 ans. Donc là, ça y est, depuis quasiment un an, on a le droit de construire sur une partie de ces terrains-là, et donc tous ces habitats légers vont devenir pour certains... là, on est en train de faire le projet d'aménagement, puis on va passer à la phase permis de construire, et donc vont émerger des maisons. Voilà, et le truc chouette, c'est qu'on a le droit, sur la partie plus lointaine là-bas du site, de mettre des habitats légers, ce qui est assez rare. Dans le PLU, on nous a donné l'autorisation. Ça veut dire qu'on a une moitié du site où il faut habiter en dur, et une autre moitié où on peut accueillir des yourtes, des tiny houses, des caravanes. Donc ça, c'est bien.
Au départ, tout a été misé sur le bâtiment principal.
On est sur un site de 5 hectares à peu près, et on va dire que l'élément central depuis 10 ans, c'est le bâtiment. Et tout est un peu conçu par rapport à ce bâtiment, en tout cas en termes d'organisation de l'espace. Donc c'est un gros bâtiment en bois qui fait 400 mètres carrés de surface utilisable, mais qui fait 700 mètres carrés de toiture, et puis il y a des espaces, on va dire, annexes ou connexes. C'est un bâtiment qui est collinaire, donc on est sur un puits, on va dire, sur un haut de massif, un haut de colline, et il a été conçu pour que les hauteurs de plafond évoluent selon la pente. Donc il est dans le sens de la pente, sur la partie haute, donc il se situe à l'est, le bâtiment fait face au sud. C'est des espaces couchage, donc il y a 4 chambres collectives, à peu près une vingtaine de couchages. Puis ensuite on descend d'un cran, donc il y a un escalier pour descendre, et ensuite on est sur une partie, la plus grosse partie du bâtiment, qui est assez haute de plafond, dans laquelle il y a un restaurant, donc cuisine, bar, salle à manger, avec une mezzanine au-dessus, puis une salle d'activité qui fait à peu près 100 mètres carrés. Tout ça est bâti en bois, donc poteau poutre, mais l'objectif c'était d'avoir un bâtiment passif, donc qui chauffe grâce à l'ensoleillement sur les vitres, donc il est relativement vitré en façade, et qui capte la chaleur et la garde à l'intérieur. Donc ce qui fait qu'on a très peu besoin d'utiliser de chauffage. Donc c'était un peu ça le concept. Donc ça fait une espèce de gros pavé, tout habillé de bois, bardé bois, bardé en mélèze. Voilà, c'est le truc qui a coûté le plus cher. Mais en même temps qu'on a construit ce bâtiment, on a fait le parking, on a fait les jardins en terrasse, tout le terrassement là, et puis on a autoconstruit toute la partie camping. Puisque dans notre montage, le bâtiment, ça allait prendre son temps. D'un seul coup, on passait d'une toute petite association avec peu d'argent, qui d'un seul coup allait investir 1 million d'euros, en fait, qui passe comme ça par le compte. Et on savait qu'une fois que ce bâtiment serait là, il y avait quand même la question de la production, de gérer ce lieu-là et de faire qu'il tourne un peu. Donc il a fallu qu'on ait des stratégies. Une des stratégies, ça a été de, pendant que ça se construisait, de faire le camping là-bas, enfin l'aire naturelle de camping, avec les sanitaires, la grande yourte là qui fait 80 mètres carrés, et 3 yourtes d'hébergement qui finalement étaient la préfiguration. C'était cet outil-là en habitat léger, quoi. Qui fait qu'on a pu démarrer notre activité dans un modèle plus modeste, et que finalement, pendant 2 ans, le temps que le bâtiment se fasse, déjà on accueillait, on formait, il y avait des gens qui dormaient. Et après, une fois que le bâtiment a été créé, on s'est retrouvé avec 2 entités hébergement, enfin qui finalement en font une, quoi. À part le bâtiment, tout ce qui est sur site, et ça c'est une des démarches fortes de l'association, c'est construit par nous, nos équipes, ou dans le cadre de formations, d'ateliers, de chantiers écoles, de stages. Par exemple, il y a un bâtiment qui est au-dessus, là, qu'on est en train de faire en dur, qu'on fait pendant les chantiers immersion formation dont je t'ai parlé, où là, tous les mois, il y a un groupe qui vient pendant 10 jours, et avec lesquels on a une partie dans leur formation qui est co-construction, donc on bâtit avec eux ce bâtiment. Et tout a été fait comme ça, soit avec des écoles, avec des IME, avec des scouts, dans le cadre de nos ateliers. En fait, c'est un chantier permanent qu'on fait avec les autres, et le chantier, c'est notre support premier de transmission. Parce que pour nous, bon, même si c'est utile, avoir une formation théorique en salle, c'est bien, mais faire, c'est la meilleure façon, enfin c'est pas la meilleure façon, mais pour beaucoup en tout cas, c'est une bonne façon d'acquérir le savoir-faire. Donc c'est vraiment un lieu qui est fondé sur le chantier collectif, et ça va continuer comme ça, je pense. De toute façon, autrement, on aurait du mal à y arriver aussi, on a besoin de coups de main.
Le lieu s'est donc construit majoritairement sur la force bénévole et les chantiers organisés lors des formations. les projets de construction sont volontairement non terminés pour que des personnes puissent s'exercer et apprendre. Selon Robin, habitant et bénévole du lieu, c'est surtout ces infrastructures fait main qui font le charme du lieu.
Il fait un peu patchwork, tu vois, le lieu. Enfin, c'est-à-dire, il y a ce gros bâtiment signé par des architectes parce que c'était exigé, un peu imposant, tout en bois, bien carré. Et puis il y a tout l'à côté, autant vivant, même des fois plus vivant, qui prend un peu l'eau, qui est un peu tordu, qui est bâti comme ça avec plein de mains qui sont passées, des chantiers collectifs, des gens qui n'y connaissent rien en construction, ils ont bien raison. Et il n'empêche que s'il n'y avait pas ces trucs un peu foutraques, c'est sûr que il serait moins vivant. Peut-être ça serait esthétiquement peut-être plus charmant d'avoir que des bâtiments tracés au cordeau comme le gros bâtiment, le bâtiment central. Les espaces qui sont à côté et plus foutraques sont autant vivants. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ils sont importants. De fait, ils sont importants. Voilà.
Habitat et espaces d'activité continuent à se construire au fil des années et des séjours de formation. Le développement d'espaces de vie et de travail sur le lieu permet d'accueillir de nouveaux arrivants et donc de dynamiser le lieu. Le modèle économique de l'association reste essentiellement basé sur des subventions publiques et du bénévolat, notamment du fait de lourds emprunts à assumer. La résilience du lieu tient avant tout sur les humains qui l'animent. Miser sur le paysage, le penser en tenant compte des contraintes présentes et futures, c'est aussi faire preuve de résilience. Qu'en est-il de la communauté de la colline? Comment faire durablement commun sur le lieu et avec le territoire? C'est ce que nous allons voir dans le dernier épisode dédié à la colline de l'Oconie.